Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Lucie, 26 ans, qui est là, assise en face de moi. Bonjour Lucie.
Bonjour Christophe.
Il y a 6 ans, en 2012, vous aviez tout juste 20 ans, et vous avez découvert incidemment que vous étiez séropositif. Et après tout un parcours pour digérer la nouvelle et dompter le virus du VIH, vous avez décidé de raconter votre histoire dans un livre qui est paru chez Robert Laffont, presque comme les autres, sur lequel évidemment je me suis appuyé. Et j'ai trouvé votre récit vraiment intéressant parce que il est très différent de ce qu'on a pu lire et entendre dans les années 80, 90 et même au début des années 2000 quand le diagnostic du VIH annonçait la mort. Votre récit est très emblématique de l'incroyable victoire de la science sur le virus du sida grâce aux trithérapies. Et du coup, ça n'est pas une histoire triste. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Lucie a 20 ans. Demain, elle passe sur le billard. Une petite opération de trois fois rien, un truc de fille. Elle a fait tout ce qu'il fallait, la consultation d'anesthésie, les analyses de sang. Mais alors pourquoi est-ce que son gynéco l'a appelée? Il veut la voir de toute urgence. En tout cas, c'est ce qu'a dit la secrétaire.
Il faut que vous veniez de toute urgence.
Avant l'opération?
Oui, avant l'opération.
Lucie appelle une de ses copines, Émilie, et en route dans la voiture, forcément, elles gambergent toutes les deux. Tu crois que c'est quoi, cette urgence? Écoute, j'en sais rien. Ils m'auraient pas appelé pour un truc bidon, genre anémie ou carence. Moi. Ou alors c'est du diabète. Ou alors une maladie sexuelle, je sais pas, moi. La syphilis, le papillomavirus. Peut-être le sida. Peut-être, en effet. Et les voilà donc qui arrivent toutes les deux au cabinet du gynéco. La salle d'attente est bondée. Mademoiselle Lucie Ovanessian, s'il vous plaît. Lucie se lève, elle entre dans le bureau de son gynéco, elle lui serre la main, elle essaye de lire, bien sûr, dans son regard. Je vous en prie, asseyez-vous. Il sort trois feuilles de papier d'un dossier et d'une voix posée, professionnelle, sans aucun pathos, il lui dit « Bon, j'ai vos analyses, elles sont positives au VIH. » Boum ! Elle a compris, bien sûr, le VIH, le sida. Elle est un peu sonnée, mais elle a compris. Mais déjà, le gynéco enchaîne. Bon, alors voilà comment ça va se passer. Dès cet après-midi, vous allez aller au laboratoire d'analyse pour faire des examens complémentaires. Et de mon côté, je m'occupe de contacter le centre hospitalier pour la prise en charge, ok? La prise en charge? Mais je vais bien? Oui, pour le moment, vous êtes en bonne santé. Les prélèvements sanguins de cet après-midi nous diront plus sur votre charge virale. Et de lui expliquer que la charge virale, c'est la quantité de virus dans l'organisme. Plus il y en a, plus il s'attaque aux défenses immunitaires, et quand les défenses immunitaires s'effondrent, on parle de sida. Dehors, Émilie attend Lucie.
Alors?
C'est le VIH.
Le VIH?
Oh merde, ça alors? Bon, tu sais... C'est plus si grave, hein, maintenant. Il y a des traitements. À partir de ce moment-là, une question se met à turbiner dans sa tête. Laquelle, à votre avis? Qui lui a refilé le VIH? Quel mec le lui a refilé? Lucie a 20 ans, elle est étudiante en sociologie à Nancy, et des mecs... Elle en a eu plein, avec lesquels la capote était parfois en option. Jusqu'à quand remonter? Jusqu'auquel? Alors elle reprend le fil de ces derniers mois. Il y a 6 mois, elle a fait des analyses de sang. Si elle avait eu le VIH à l'époque, on l'aurait appelée. On ne l'a pas appelée. Donc elle a été contaminée il y a moins de 6 mois. Cédric ? Pierre ? Gaël ? Ou alors Esteban ? Ou Fabrice ? Cédric, c'est le dernier. C'est le plus récent. Ils avaient arrêté la capote sans faire de test. Et puis, ils avaient fait une pause et repris leur relation, toujours sans faire de test. Alors elle l'appelle tout de suite. Il est un peu surpris, forcément.
Lucie ? Yeah ! C'est bizarre d'avoir tes nouvelles.
En fait, je t'appelle parce que j'ai un truc important à te dire. Enfin, à te demander.
Vas-y !
Voilà, je viens d'apprendre que je suis séropositif. Du coup, je voulais savoir... T'as fait des tests récemment ?
Sérieux ? Oh merde, je suis désolé. Ouais, j'en ai fait il y a pas longtemps. J'ai rien, Lucie.
Donc, ça n'est pas Cédric. Alors c'est Esteban. Avec Esteban, ils n'ont pas toujours mis la capote. Il est en Australie pour un stage. Elle le contacte par Facebook. Réponse : j'irai faire le test la semaine prochaine. Je te dirai. Sinon, il y a ce Fabrice. C'est un type qui l'a dragué dans la rue. Fabrice comment déjà ? Zut, elle a oublié son nom. Et elle n'a pas gardé son numéro de téléphone. C'est peut-être lui. Elle ne le saura jamais. En attendant, elle doit se faire opérer demain. Et ça n'a pas changé. Et Lucie se retrouve donc toute seule le soir, dans sa chambre, à la clinique. Et là, elle s'effondre. Là, elle s'effondre. Et là, elle chiale. Et maintenant, il va falloir le dire à ses parents et à ses sœurs. Et donc, le week-end suivant, Lucie rentre chez sa mère à Saint-Dié dans les Vosges. Dans la voiture, elle lui demande :
Ça va, ma chérie ? Tout s'est bien passé à la clinique, ton opération, tout ça ?
Lucie ne peut pas, ne veut pas la regarder. Elle ne veut pas voir sa réaction. Alors elle fixe la route, droit devant, et d'une voix chevrotante, elle lui dit :
Ben, en fait, tu sais, je devais aller voir le gynéco mercredi. Mes analyses, elles sont positives au VIH.
Elle ne veut pas voir sa réaction. Elle lui dit ensuite comment elle pense l'avoir attrapé. Elle lui parle d'Esteban, de Fabrice. C'est pas évident, hein. En général, elle ne parle pas de ses aventures avec sa mère. Elle est pudique. La mère, évidemment, est bouleversée, mais elle ne le montre pas.
Tu comptes en parler à tes sœurs ?
Je sais pas encore.
C'est toi qui vois, ma chérie.
Moi, je ne dirai rien. Pour l'instant, elle ne le leur dira pas. Elle attendra le bon moment. Mi-août, un mois et demi après l'annonce, il est temps de démarrer le traitement. Rendez-vous au centre hospitalier de Nancy. Et ce qu'ont révélé les analyses de sang complémentaire, c'est que son virus est résistant à l'une des molécules utilisées dans les thérapies. Du coup, les options de traitement sont limitées.
Alors, vous allez prendre du Norvir, du Truvada et du Reyataze. Donc c'est à prendre tous les jours, à heure fixe et en une seule prise. À quelle heure est-ce que c'est le mieux ?
Bah écoutez, le mieux c'est de les prendre en mangeant, sinon c'est peut-être un peu agressif.
Un peu agressif ?
Oui, il y a des effets secondaires possibles. Troubles de la digestion, douleurs abdominales... Et puis aussi le blanc des yeux qui peut virer au jaune. Et maintenant, il faut aller chercher tout ça à la pharmacie. Et franchement, Lucie appréhende ce moment. Quelle tête va faire le pharmacien ? Est-ce qu'elle va lire dans son regard quelque chose du genre « Tiens, elle a le sida, la miss ».
Mademoiselle ?
Lucie lui tend son ordonnance, anxieuse. Mais en face, l'autre ne moufte pas. Aucun signe de stigmatisation. Aucun. Ouf. Et voilà donc notre Lucie avec ses médicaments. Les premiers jours, elle ne pense qu'à ça, prendre ses médicaments à l'heure. Un peu naïvement, elle règle l'alarme de son portable à 19h30. Mais en général, dès 19h, elle sort son pilulier et elle attend comme un athlète dans les starting blocks et à 7h30 pile, elle les gobe un par un. Le médecin lui avait parlé de possibles effets secondaires. Elle n'en a pas. Juste le blanc des yeux qui, effectivement, est un peu jaune. C'est tout. Et donc la vie continue. En septembre, Lucie change de fac, elle quitte Nancy pour Cannes, sur la Côte d'Azur. Et elle laisse tomber la socio pour une école de journalisme. Et assez vite arrivent les premières fêtes d'étudiants. La vérité, elle n'a pas vraiment l'esprit à la fête. Mais elle y va quand même pour s'intégrer. Mais sans picoler et sans fumer, en appliquant à la lettre ce que lui ont dit les médecins. Bien manger, ne pas fumer, ne pas boire. Et puis ce qui devait arriver, arrive. Un étudiant de troisième année, Maxime, assez beau gosse, se met à lui tourner autour. Il commence par l'ajouter sur Facebook. Ça aujourd'hui, c'est le signal qui tue. Ajouter quelqu'un sur Facebook, c'est un peu comme autrefois, lui faire un clin d'œil. Et puis quelques jours plus tard, il lui envoie un message. Et si on se voyait pendant les vacances de la Toussaint ? Franchement, elle n'a pas la tête à ça. Elle a le VIH, elle le sait depuis 3 mois. Alors un garçon, maintenant, c'est pas du tout dans ses plans. Et pourtant, elle accepte le rencard, en se disant, ça n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, la première fois, ça ne va pas plus loin. Il parle ciné, série, musique, mais il ne se passe rien. Mais elle l'a trouvé beau, intelligent et tendre. Ça, c'est important. Et donc ils se revoient, chez elle, chez Lucie, officiellement pour regarder un film, allongé sur le lit. À un moment, Maxime se penche pour l'embrasser. Il la prend par la taille, il se serre contre lui, et elle a très envie de lui, bien sûr, mais elle n'est pas à l'aise. Alors elle tourne la tête. « Maxime, j'ai un truc à te dire avant d'aller plus loin. »« Ok, vas-y. » Mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Elle n'a pas le courage. Il lui faut de longues minutes pour réussir à dire. Maxime, je suis séropositif. En face, Maxime ne dit rien. Pas un mot. Il baisse les yeux. Lucie se met à pleurer. Et puis ils finissent par s'enlacer. Et elle lui explique tout. Comment elle pense l'avoir attrapé. Comment elle l'a appris. Et quelles sont les conséquences de la maladie sur son physique.
« Écoute, je sais pas quoi penser. C'est un peu dur à encaisser comme ça. J'espère que tu comprends. Laisse-moi quelques jours. Je vais y réfléchir. »« Ouais, je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Si tu peux pas aller plus loin, je pourrais pas t'en vouloir. »
Dans son livre, Lucie écrit « Que va décider Maxime ? Va-t-il avoir peur au point de ne plus vouloir me voir ? Quand me recontactera-t-il ? Si je le croise demain entre les cours, que va-t-il se passer ? Va-t-il m'ignorer comme si nous ne nous étions jamais embrassés ? Je n'ai pas envie que cette histoire se termine avant même d'avoir commencé. » Le beau Maxime lui envoie un message dès le lendemain. « Je me suis renseigné sur le site de Sida Info Service et celui d'Aide. Avec ce que j'ai lu et d'après ce que tu m'as dit, je ne risque pas grand-chose, non ? Je t'apprécie vraiment, mais c'est flippant. J'espère que tu comprends. Tu veux qu'on se voit ce soir ? Eh bien sûr qu'elle veut ! Et ce soir, et demain, et après-demain ! Mais pour l'instant, ils n'ont pas couché ensemble. Maxime, un jour, lui explique pourquoi il coince.
Tu sais, mes parents m'ont toujours fait super flipper avec le VIH. Du coup, je suis complètement obsédé par la peur de le choper.
Et puis, il se détend, et un jour, ils font l'amour. En se protégeant, bien sûr. Et vous savez ce que fait Maxime ? Après, il va remplir la capote avec de l'eau pour vérifier qu'elle n'était pas trouée. Ça peut paraître blessant, mais en vérité, Lucie, ça ne la choque pas. Elle le trouve responsable. Et puis les semaines passent, et un soir, Maxime dit à Lucie :
« Lucie, je crois que je suis amoureux de toi. Je t'aime, Lucie.
Les fêtes de fin d'année arrivent, ça fait 6 mois maintenant que Lucie est au courant. Et elle va passer Noël chez sa grand-mère, au Mans, dans la Sarthe, avec toute la famille. C'est décidé, elle va le dire à ses sœurs. Quand ? Comment ? Pour l'instant, elle ne sait pas, mais elle va le leur dire. Et puis le 25 décembre au soir, elles sont dans la chambre, toutes les trois, avec Liliane et Isabelle. Elles se démaquillent, elles se brossent les dents, et comme si de rien n'était, elle s'installe à la table de la chambre et elle sort 3 boîtes de médicaments, devant les frangines.
C'est quoi ça ? Ben c'est ma trithérapie. Mais pourquoi ? Ben c'est pour le VIH.
C'est la technique qu'elle a choisie pour son annonce. Celle de la banalité, de la dédramatisation. Sauf que c'est un peu raté. Liliane et Isabelle se mettent à pleurer comme des madeleines.
Mais comment ça se fait ? Mais qui t'a contaminé ?
J'en sais rien. C'est peut-être Esteban ou un gars que j'avais rencontré à Nancy. De toute façon, maintenant, ça n'a plus trop d'importance de savoir qui m'a contaminé. Ça ne changerait rien de le savoir.
Cette question du qui, décidément, revient à chaque fois qu'elle annonce sa maladie. Qui te l'a refilé ? Ce besoin de trouver des responsables qui, pour être honnête, continuent aussi de torturer Lucie. J'aurais voulu revenir au moment précis où le virus avait pénétré dans mon organisme et décidé de s'y installer pour faire un autre choix. Et puis avec le temps, j'ai peu à peu lâché prise à cette interrogation. Les sœurs pleurent et du coup, Lucie se met aussi à pleurer. Et à ce moment-là, la mère entre dans la chambre.
Bon, eh ben voilà, vous êtes au courant. C'est pas si grave, les filles. Ça fait partie des aléas de la vie. Il y a des jeunes qui ont des accidents de voiture. Il y en a d'autres qui ont des cancers. Voilà, votre sœur a le VIH. Elle est en bonne santé quand même.
En tout cas, ça c'est fait. Liliane et Isabelle sont au courant. Il ne lui reste plus qu'à le dire à Béatrice, sa troisième sœur. Et pour Béatrice, ça va pas être aussi facile. Elle a toujours été dure avec elle, dure avec ses fréquentations, dure avec son maquillage. Est-ce qu'elle ne va pas dire que je mérite mon sort ? Que c'est ma faute ? Que c'est bien fait pour moi ? Je la sens capable de manquer de tact dans sa réaction. Et puis, il lui reste aussi à le dire à son père. Et ça, c'est plus problématique. Son père, en général, il flippe, il dramatise. Pour un musée fermé ou pour une panne de voiture, il dramatise toujours. Lucie écrit « Je suis sûr que même avec des explications limpides, il pensera que c'est plus grave que ça ne l'est réellement. » Après les vacances, retour à Cannes, et retour donc aux études de journalisme. J'aimerais parler de mon virus à mes camarades. Ils ont le même âge que moi. Ils sortent, ils flirtent, ils boivent, ils couchent. Je reconnais en eux celle que j'étais il y a à peine un an. J'ai envie de les mettre en garde. Et donc Lucie décide de faire de la prévention, mais par des moyens détournés. Elle est en école de journalisme. Eh bien, elle propose un reportage sur les jeunes et le VIH. Et elle décide de s'interviewer elle-même, de se poser à elle-même toutes les questions qu'elle aurait aimé qu'on lui pose, sans se dévoiler, bien sûr. Et devant toute la classe, le professeur dit
« Excellent travail de Lucie, vraiment. Hein. Témoignage très touchant, c'est très pertinent. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment très bien. »
Au mois de mars, ça fait 8 mois que Lucie a été diagnostiquée. 8 mois que, consciencieusement, elle prend ses médicaments à 19h30 et le médecin lui annonce la grande nouvelle.
Alors, j'ai vos résultats, et ben tout va bien, comme je l'avais prévu. Votre charge virale est maintenant indétectable.
grâce à la trithérapie, le virus n'est plus détectable. Ça, c'est le grand progrès des dernières décennies. J'ai l'impression de retrouver mon corps, que l'intrus qui s'y planque est ratatiné, inoffensif. Il me semble que j'ai meilleure mine et que je suis rayonnante. Concrètement, Lucie n'est plus contaminante. Elle ne peut plus transmettre le virus. Elle ne peut plus contaminer Maxime. J'insiste là-dessus, parce que c'est sans doute la chose la plus méconnue de l'évolution du VIH depuis l'apparition des trithérapies. À condition de prendre son traitement comme le fait Lucie, on peut avoir des relations sexuelles sans protection et sans risque. Et le temps passe comme ça, et en juin 2014, fin des études de journalisme, il est temps de quitter Cannes et Maxime. L'histoire durera un peu, mais elle ne tiendra pas avec la distance. Toutes les belles histoires ont une fin. Lucie a décidé de venir s'installer à Paris et de tenter d'y devenir journaliste. Au début, ça n'est jamais facile. Alors en attendant, elle trouve une formation en alternance pour devenir hôtesse d'accueil en entreprise. Pour ses soins, son dossier a été transmis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son virus est toujours indétectable. Mais ça n'empêche pas que parfois, elle craque. Comme le soir du Nouvel An. Lucie a un peu picolé. Elle est dans le tramway qui la ramène de sa soirée. Il est 1h du matin. Elle attrape son téléphone et elle tweet. Encore une année à vivre avec le VIH. Protégez-vous. C'est la première fois qu'elle dit la chose publiquement. Évidemment, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde de connecté. Quelques copains, néanmoins, répondent. Je ne savais pas. Je te souhaite le meilleur. Dans son livre, Lucie écrit « Je n'ai pas fait de bêtises en envoyant ce tweet. Ce soir, j'avais besoin d'extérioriser, de partager ma tristesse et mon obsession. » Début janvier, elle tombe sur un article des Un Rock, avec ce titre « Je jouis à tous les coups sans capote, mais rarement avec, alors je décide de jouir ». L'article parle, chiffre à l'appui, de tous ces jeunes, de plus en plus nombreux, qui ne mettent plus de préservatifs. Et ça la met en rogne. Et à nouveau, elle tweete. « Moi aussi, j'étais une étudiante qui ne faisait pas attention. Maintenant, j'ai le VIH ». Après ce tweet, Combini, un de ses nouveaux sites d'information numérique, la contacte et lui propose d'écrire un article sur le VIH, sur sa maladie. Elle hésite. Elle s'est déjà un peu exposée sur Twitter, elle a déjà évoqué publiquement sa maladie, mais là, à l'autre bout, il y a des milliers et des milliers de fans. C'est une marche au-dessus. Mais elle le fait. Elle l'écrit, cet article. Lettre d'une séropositive à une jeunesse inconsciente. Et c'est un succès. L'article est lu et partagé des milliers et des milliers de fois. Et elle reçoit des dizaines de messages de jeunes séropositifs comme elle qui se reconnaissent dans son témoignage et d'autres qui lui posent simplement des questions. À part ça, avec Maxime, maintenant c'est clair, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en 2015, qu'on a 22 ans et qu'on est célibataire ? On va sur un site de rencontre. Lucie choisit, adopte un mec. Et elle commence à parler avec un certain Charles. Le courant passe bien. Alors elle lui dit les choses. Je te dis un truc, t'en fais ce que tu veux. Je suis séropositive. Je prends un traitement depuis 2 ans et demi. Ma charge virale est indétectable. Sur le moment, ça ne semble pas le déranger, Charles. Enfin, jusqu'au lendemain. J'ai bien réfléchi, et en fait ta maladie, ben ça me travaille. Je ne suis plus très sûr de vouloir te rencontrer. Mais finalement, ils se voient quand même, et ils font l'amour. Mais Charles est complètement omnibulé par sa capote. On dirait qu'il pense qu'à ça. Il vérifie toutes les 3 secondes qu'elle est bien en place. D'un côté, Lucie le trouve responsable, mais en même temps, elle aimerait être une fille normale. Alors ce Charles, elle l'a vu, elle ne le reverra pas. Mais elle en verra d'autres. toujours grâce à ces applications de rencontres genre Tinder. Et à chaque fois, c'est la même chose. Elle dit les choses, le garçon hésite, mais souvent, il accepte. Une fois, elle rencontre Théo, la vingtaine. Elle lui annonce qu'elle a le VIH. Il est compréhensif, il est même touché quand elle lui en parle. Et elle lui demande s'il a déjà fait des tests, s'il est lui-même négatif.
Ah oui, ah, c'est certain. Bon, ça m'arrive de ne pas mettre de préservatif, mais je baisse qu'avec des jolies filles des beaux quartiers. Alors tu vois, ça me concerne pas trop, hein.
Le genre de truc qui désormais met Lucie en pétard. Tous ces gens qui se sentent à l'abri du VIH parce qu'ils croient coucher avec les bonnes personnes. Et puis à force de butiner comme ça, sur Tinder et sur d'autres sites, Lucie finit par tomber sur Tristan. Un beau mec avec des yeux verts. Et là, c'est l'amour fou. Et quelques mois après, elle a rendez-vous avec son médecin.
Bien. Alors Lucie, votre charge virale est toujours indétectable. Tout va bien. Vous avez un chéri?
Ouais.
Eh bien, sachez que vous pouvez avoir des enfants. Alors, quand vous en voudrez, bah, vous me le dites, et puis on adaptera le traitement.
Dans son livre, Lucie écrit « Il y a 5 ans, j'étais persuadé d'être condamné au préservatif toute ma vie. Et aujourd'hui, je fais l'amour sans. À cet instant précis, jamais la médecine, la science et le progrès ne m'ont apparu aussi beau et plein de sens. »
Europe 1, on de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Lucie Ovanessian qui a publié il y a quelques semaines chez Robert Laffont, presque comme les autres. Lucie qui a donc découvert à l'âge de 20 ans en 2012 qu'elle était contaminée par le VIH et qui, néanmoins, contrairement aux générations précédentes, a pu envisager l'avenir avec une forme de sérénité et même l'amour avec sérénité. Je voudrais, Lucie, qu'on revienne sur ce moment de l'annonce. Il y a d'abord quelque chose qui m'a marqué, ça aussi c'est une question de génération, mais ma génération disait sida. Et elle a eu du mal à effacer le mot sida pour lui substituer le VIH. Pas une fois vous ne prononcez le mot sida dans votre livre.
Bon, si, quand même un petit peu, mais
un petit peu.
Très rarement. Et c'est vrai que moi-même, enfin, dans la vie, je parle pas de, quand je parle de moi et de mon cas, je parle pas de sida. Parce que on fait vraiment la distinction aujourd'hui entre l'infection au VIH et le stade sida, qui est donc le dernier stade, le quatrième stade, même, bon, il y a 4 phases. C'est la 4e phase d'une infection au VIH.
Oui.
Et moi, quand on m'a dit que j'avais ce virus, je savais que donc je n'avais pas un sida déclaré et que grâce au traitement qui allait commencer très rapidement, j'atteindrais jamais, si tout se passait bien, ce stade.
Ouais. Alors, l'annonce est faite par votre gynécologue, et il le fait sans aucune gravité, ça aussi, probablement, je ne sais pas s'il est vieux, ce gynécologue.
Il était vieux, oui.
Oui, donc il avait déjà annoncé probablement des séropositivités dans un contexte beaucoup plus grave. Il est extrêmement neutre, il vous dit ça comme Kim vous dirait, vous avez la syphilis, on va vous donner un médoc, ça va aller, quoi.
Peut-être. Enfin, oui, mais tant mieux. J'ai vraiment apprécié en fait qu'ils prennent pas de pincettes ou qu'ils m'infantilisent pas. Que voilà, c'est très professionnellement, ils me disent les choses voilà telles qu'elles sont en fait, sans en faire des tonnes. Et c'était mieux parce que enfin voilà, comme j'étais jeune, il aurait pu en faire des tonnes.
Alors, si j'ai bien compris, ce gynécologue a un frère qui s'occupe de VIH.
Oui, et finalement,
à l'hôpital.
Et finalement, c'était pas son frère qui s'occupait de moi, c'était quelqu'un d'autre.
Mais il était sensibilisé, peut-être.
Sûrement aussi.
Il connaissait l'avancée du traitement. Il était au parfum. Ce qui est très étonnant, c'est la réaction de votre maman. Alors, parce que alors, elle est encore moins dramatique que la vôtre et celle de votre gynéco. Comment vous l'expliquez ça? Elle était au parfum de l'évolution du fait qu'aujourd'hui on ne mourrait plus du VIH.
Sûrement, parce que c'est une femme quand même assez informée, qui se tient au courant, et aussi...
C'est son caractère.
C'est son caractère, elle est très réservée, et je suis un peu ce côté-là aussi d'elle, très très réservée, qui montre pas trop ses émotions. Elle a perdu sa mère aussi assez jeune, donc voilà, elle a pas eu, c'est vrai que ça lui a pas fait un énorme choc, en tout cas pas devant moi. Après, ouais. Je sais pas, on sait jamais ce qui se passe dans la tête de nos parents, mais.
Parce que quand elle vient dire à vos sœurs, ça, vous voyez, il y a des gens qui ont des cancers, il y en a qui ont un accident de la route, bon, ben, votre sœur, elle a le VIH. Rien de plus.
Oui, elle a relativisé, elle fait cette part des choses de remettre dans son contexte, et c'était pas plus mal non plus.
Alors vous dites à la fin de votre livre, qui est donc écrit 6 ans après l'annonce, ou peut-être 5 ans, hein, le temps de l'écrire, voilà, disons 5 ans après l'annonce, vous dites que vous n'avez pas pu encore le dire à votre père, ni à votre sœur Béatrice, qui est votre sœur aînée?
Oui,
voilà. Depuis, j'imagine que le livre a fait le boulot.
Le livre a fait le boulot, ma petite sœur a fait le boulot pour mon père aussi, à ma place. Et pour ma grande sœur, c'est moi qui l'ai dit moi-même.
Et il a dramatisé votre père comme prévu?
Bah, vu que c'est pas moi qui lui ai dit, j'ai pas vu la réaction à chaud. Ouais. Ma petite sœur m'a un peu raconté, parce que c'est elle qui lui a fait l'annonce. Il y a eu un moment de remise en question, je pense, de son côté, un peu...
Dans le rapport qu'il avait avec vous.
Voilà, dans son rôle de père. Oui. Voilà, peut-être on peut réfléchir à ce qu'il avait raté. Et...
Ça l'a peut-être surpris quand même que vous ne lui ayez rien dit pendant 5 ans.
Et oui, il y a eu aussi un peu de ça, de se dire pourquoi qu'est-ce qui a fait que ma fille ne veuille même pas me dire ce qui est une part importante quand même maintenant de ma vie.
Et votre sœur, est-ce que vous savez si elle a réagi comme vous l'anticipiez, c'est-à-dire bien fait pour elle?
Ma grande sœur, je lui ai dit, elle a eu une sorte de non-réaction ah oui, bon, d'accord. Et ensuite, c'est vrai que elle a eu ce côté, c'était un peu de ma faute. Elle m'a dit quelque chose comme, c'est vrai que quand t'étais adolescent, tu faisais un peu n'importe quoi et on le savait, mais pas de manière culpabilisante. Vraiment histoire de dire bon. Enfin, je sais pas trop comment.
Elle a eu une réaction morale, comme on dit, quoi.
Un peu moralisatrice.
Mmh. Oui. On en parle de ça, qui est très, là aussi, très emblématique de l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'explique parce qu'on n'a pas, tous nos auditeurs n'ont pas 20 ans et tout le monde ne connaît pas Tinder. et maintenant Facebook, puisqu'on nous a annoncé ce matin que Facebook allait se lancer dans la rencontre amoureuse, en vérité sexuelle. Donc, Tinder, ce sont des applications qui permettent de localiser des gens qui sont autour de vous et qui sont prêts à avoir des relations sexuelles là, maintenant, dans 1 heure, dans 2 heures, 3 heures, ce soir, demain. On peut en changer tous les jours. Vous avez totalement participé à ça, comme la plupart des jeunes de votre âge. Quel regard est-ce que vous avez là-dessus, sur ce butinage sexuel?
Moi, donc, quand je l'utilisais, maintenant, bon, ça fait 2 ans et demi que je suis en couple, donc j'utilise
avec
plus,
Tristan, c'est toujours Tristan.
Toujours le même. Ouais. C'est le garçon de la fin du livre.
Les yeux verts.
Oui. Très voilà. Très beaux yeux verts. Non, Tinder, c'est Tinder et Adopte un mec et tous ces services de dating, c'est, enfin, comme je le raconte dans le livre, c'est vrai qu'il y a une part de frustration énorme de se demander ce qu'il y avait après. Toujours se demander ce qu'il y a après ce profil-là. Ce profil-là est très très bien, mais est-ce que si je swipe encore une fois à droite, est-ce que le prochain sera pas mieux? Et c'est vrai que ça crée une sorte de...
D'addiction.
D'une part, une addiction, et se dire, il y a mieux, il y a toujours mieux, il y a toujours plus de complicité, un mec plus beau, plus intelligent, et à la fin, c'est très frustrant, et c'est bien aussi de s'en détacher, de parfois aussi se contenter de ce qu'on a.
Ouais. Alors là, c'est presque des questions techniques que j'ai envie de vous poser, parce qu'il faut qu'on progresse nous tous là-dessus. La maladie fait d'une certaine manière de vous un spécialiste, une sorte de.
Un peu.
Ça oblige. Ça oblige. Le virus indétectable, c'est acquis jusqu'à à la fin de vos jours?
Non. Ça, en fait, ça dépend vraiment d'une bonne observance au traitement. C'est-à-dire que si pendant une semaine j'arrête de prendre le médicament, le virus remonte et en plus peut développer des résistances aux molécules qui sont utilisées dans mon traitement. Donc tout dépend de la bonne observance. Moi, si je prends mes médicaments tous les jours correctement et j'observe les bonnes doses, donc la charge virale reste indétectable. Mais il suffit d'un ou deux oublis, enfin un non, mais 2, 3, 4 oublis et ça peut tout à fait remonter. Oui.
Alors après, moi, ce qui m'a bien intéressé, c'est ce choix que vous faites, donc qu'on voit venir en fait dans votre récit. C'est-à-dire qu'on voit bien au bout d'un moment que vous aurez envie de le dire publiquement. Ça tient à quoi ça? Pourquoi est-ce que c'est important à un moment d'avoir cette forme d'impudeur en quelque sorte, qui consiste à dire j'ai le VIH, je m'appelle Lucie et j'ai le VIH?
Parce que à l'époque, donc j'ai 20 ans, 21, 22, 23 ans, et dans mon entourage, il y a des gens du même âge que moi qui sont encore peu informés, mal informés. Voilà, quand j'avais fait une sorte de micro-trottoir à l'IUT pour faire un sujet de radio, et que j'avais un de mes camarades de classe qui avait sorti que c'était horrible et qu'il y avait que les Africains qui l'avaient, qu'on allait en mourir si on attrapait le virus. Bon, voilà, je me rendais compte que qu'il n'y avait pas... voilà, il y avait une insouciance, en fait, ce qui moi-même m'avait touchée avant. Et j'avais envie de remplir un vide, justement, du fait qu'il n'y avait pas de témoignage de personnes de mon âge. En tout cas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce témoignage-là. Mmh. Et du coup, il n'y a pas de processus d'identification. Et donc, ça nous paraît très lointain. Ça semble être dans les années 80, ça semble être les homosexuels. Ou... Donc, je me suis dit, ben, si moi, je n'ai pas ce truc de m'identifier à quelqu'un... ce sujet, je peux le faire moi-même.
Ça veut dire que, d'une certaine manière, la maladie vous condamne à une forme d'impudeur, parce que maintenant, on sait toute votre vie, quand même.
Ah oui, là, c'est... Ceux qui ont lu le livre, effectivement, ils savent beaucoup, beaucoup. Ouais. Étonnamment, je suis même surprise que sur les réseaux sociaux, je m'en sors très bien. J'ai pas eu spécialement de retour négatif. Et je trouve ça absolument fabuleux, en fait, parce que je pense que si ça avait été il y a encore peut-être 10 ans, ça aurait pas du tout été le même accueil. Donc c'est aussi la preuve que les choses avancent et évoluent.
Mais vous êtes certaine que vous n'êtes pas, pour un certain nombre de gens qui vous connaissent, la fille qui a le sida ?
Peut-être, mais je... ils me le disent pas. Ouais. Et puis je n'ai pas le sida.
Oui, mais enfin, c'est sans doute comme ça que les gens le disent dans votre dos.
Peut-être, mais bon, peu importe. Si, voilà, moi j'explique les choses très, je pense, très clairement dans mon récit et voilà, les gens font ce qu'ils veulent ensuite. Hein.
Alors, j'ai dit à quel point votre récit est formidable. Il y a peut-être un petit piège au bout de ce récit. C'est-à-dire qu'à la fin de ce récit, on se dit, bon, allez, pff, si je la mets pas une fois à la capote, bon, voilà, j'aurai le VIH, je prendrai 3 médocs toute ma vie, et puis voilà, c'est tout.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est un paradoxe et un équilibre. J'essaye de faire ce travail d'équilibriste dans le livre. Je ne sais pas si j'y arrive très bien, mais c'est vrai que... il y a deux messages à avoir. Il y a le message, si vous n'avez pas le VIH, restez comme ça et ne l'attrapez pas. C'est toujours mieux de ne pas avoir de virus mortel dans le corps. Enfin, oui. Je pense que tout le monde sait. Voilà. Et ensuite, c'est pour les personnes qui ont le virus ou qui vont apprendre qu'ils l'ont, j'ai envie aussi de leur dire que c'est pas la fin de leur vie, qu'on peut vivre avec correctement, normalement, avoir des projets, avoir une vie totalement sereine. Donc voilà, il y a ces deux choses. Et si vous êtes séronégatif, restez-le. Et si vous êtes séropositif, c'est pas forcément un drame. Ça va pas à l'être, en tout cas.
C'est la dernière fois que vous en parlez ? Ou vous continuerez tout au long de votre vie ?
On verra bien. Je sais pas. Je me suis pas encore posé la question. Oui,
vous êtes bien placé pour savoir que la vie est pleine de surprises.
Exactement.
Merci beaucoup, en tout cas, Lucie Avanessian. Je rappelle le nom de votre livre qui est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement et en librairie. Presque comme les autres, ma vie de jeune séropositive aux éditions Robert Laffont.
Hé, attendez, ne partez pas, j'ai encore quelque chose à vous dire. Vous aimez les histoires incroyables. Vous connaissez celle de l'avocat qui a reçu par la poste une oreille coupée ? Vous pouvez l'écouter dans le podcast « Mon client et moi ». Des avocats reviennent sur les affaires criminelles qui les ont les plus marquées, qui ont changé leur vie. Alors écoutez les nouveaux épisodes, c'est simple, il suffit de taper « Mon client et moi » dans votre application de podcast favorite et de vous abonner. Je vous laisse découvrir.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.